Donc Vulca Fidolini est docteur en sociologie, ATER à l'Université de Strasbourg et est rattachée à l'UMR Dynamique Européenne. Alors sa communication est tirée de sa thèse intitulée « Repenser la réputation, regard sur les masculinités des jeunes immigrés ». Et il s'agira ici de relire la question de la réputation pour en montrer les différentes formes d'expression chez les jeunes hommes marocains issus de différents milieux sociaux, et pas uniquement des milieux populaires. Vulca, c'est à toi.
Merci. Oui. Donc merci de cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir participer à ces beaux colloques et à cette session avec des chercheurs et chercheuses déjà affirmés. Bon, pour un jeune docteur comme moi, c'est un vrai honneur et je remercie donc les organisatrices d'avoir pensé à moi pour intervenir autour de la question de genre et jeunesse en milieu populaire. Bon, mes recherches n'ont pas porté exclusivement sur la jeunesse des milieux populaires, car dans mon travail de thèse qui se propose d'analyser les formes plurielles d'expression de l'hétéronormativité, j'ai étudié les conduites sexuelles et la construction des masculinités chez une population d'hommes marocains immigrés en Europe, issus des différents milieux, étudiants et travailleurs, issus des classes aisées, voire parfois très aisées du Maroc, des centres urbains, et issus également de familles modestes, parfois très modestes, des milieux ruraux. Mais c'est justement en profitant un peu de ces regards plus larges que je chercherai aujourd'hui à mettre en perspective les trajectoires de mes interviewés. Donc ma communication va s'appuyer sur les résultats d'une recherche doctorale qualitative, fondée sur des entretiens et des observations ethnographiques, menée entre 2011 et 2015 auprès d'hommes marocains résidant en France et en Italie, et plus précisément en Alsace et en Toscane, âgés de 20 à 30 ans, musulmans, arrivés en Europe lorsqu'ils avaient entre 13 et 22 ans. Donc, pour en venir plus directement au thème de cette session, j'aimerais reprendre, justement, comme on disait, avec vous, une question assez controversée qui m'a beaucoup interrogé pendant mon travail de terrain, qui est celle de la construction de la réputation masculine, et notamment lorsqu'elle est liée au contrôle de la sexualité de la femme. Donc, dans un premier temps, je proposerai une réinterprétation de cette notion de réputation. Puis, dans un second temps, je me concentrerai sur l'analyse de deux cas empiriques qui montreront comment l'étude de la réputation se révèle une perspective pertinente pour analyser non seulement les cas des jeunes issus des milieux populaires, des cités par exemple, mais qu'elle permet de sonder les différentes formes d'expression de la masculinité aussi chez des jeunes qui sont issus d'autres milieux. D'abord, donc j'insiste sur le fait que les conseils de réputation me semblent beaucoup plus appropriés par rapport au conseil d'honneur, qui est une notion souvent mobilisée pour étudier les masculinités des pays du sud de la Méditerranée, des hommes immigrés ou issus de l'immigration maghrébine, notamment des milieux populaires. Et dans une recherche sur les adolescents d'une banlieue nord parisienne, dont les résultats sont publiés dans un ouvrage assez connu, Cœur de banlieue, David Lepoutre affirme que cette notion d'honneur utilisée dans les études comparative sur la Méditerranée des années 60 et 70. Je pense par exemple aux travaux de George Peristiani, John Davis, John Peter Rivers. Selon lui, donc selon Lepoutre, cette notion d'honneur conserve encore aujourd'hui, je le cite, un grand pouvoir d'explication pour l'analyse des conduites des adolescents issus de l'immigration du Maghreb et de l'Afrique noire. Donc à plusieurs reprises dans son étude, Lepoutre explique que les manifestations de l'honneur observées chez ces jeunes adolescents puisent leur source, je le cite, à la fois dans les vieux fonds de la culture maghrébine et dans certains traits spécifiques de la mentalité populaire. Donc, son usage de cette notion finit souvent par reproduire la rhétorique culturaliste qui définit un modèle masculin méditerranéen, viril, patriarcal, familialiste, hétéronormatif, propre à toutes les sociétés de cette ère géographique, de manière universelle et atemporelle, que l'anthropologie comparative des années 60 et 70 avait justement soutenue. Néanmoins, malgré le fait que certaines analyses prêtent les flancs à des critiques, l'approche de la question de l'honneur proposée dans cet ouvrage « Cœur des banlieues » mérite à mon avis d'être approfondi, car si d'un côté les poutres associent cette notion d'honneur à des images un peu stéréotypées du jeune issu des milieux populaires, d'un autre côté elle est aussi rapprochée d'un concept qui demeure, me semble-t-il, comme je disais, plus opératoire, celui de réputation. À travers l'usage du terme réputation, les poutres invitent à reconnaître les formes à travers lesquelles l'honneur se manifeste chez les adolescents, en fonction des différents cadres d'interaction et face à une multiplicité d'acteurs. Et ainsi faisant, les significations associées à la notion d'honneur se révèlent plus dynamiques et deviennent l'appui pour la construction des stratégies utilisées par ces adolescents afin de se protéger devant les attaques publiques d'acteurs externes et internes à leur cercle d'appartenance. Il prend justement les cas des insultes, des échanges d'insultes entre bandes dans la rue. Donc l'honneur peut ainsi se traduire en une sorte de fierté masculine, une dignité ou tout simplement un amour propre, comme le définit Christelle Hamel dans sa thèse. Un outil, en tout cas, de la construction de soi est un objet dynamique des relations sociales, donc non pas un trait essentiel et essentialisé du sujet. Et d'ailleurs, les jeunes interviewés dans ma recherche n'ont utilisé que très très rarement ces mots « honneur » dans leur récit. Donc l'étude de la réputation à travers cette approche plus dynamique me semble permettre l'analyse des constructions de la masculinité et leur variabilité, ainsi que leur imbrication avec un ensemble des rapports sociaux qu'on verra ensemble. Et donc j'en viens au cas d'études empiriques. Donc parmi les témoignages que j'ai recueillis, l'un des plus intéressants à analyser pour décrire ce que j'entends par réputation, me semble celui de Jalal, 21 ans, que j'ai rencontré à Florence sur mon terrain italien, où j'avais pu en fait me familiariser avec ce jeune homme et son groupe d'amis marocains qui traînaient toujours sous la place centrale d'un petit village situé dans la périphérie ouest de Florence. Ces jeunes hommes étaient presque tous arrivés en Italie avec leur famille vers l'âge de 14-15 ans. Ils avaient suivi leur père qui, en Toscane, avait trouvé un travail dans les usines de cuir. Ils étaient tous issus des milieux populaires et originaires de la même ville de la région de Marrakech dans le Maroc rural. Ils étaient tous étudiants et devaient encore tous terminer leur baccalauréat professionnel car ils avaient été reculés d'une classe scolaire lors de leur arrivée en Italie. Au cours d'un entretien, Jalal, qui disait n'est pas avoir encore vécu son premier rapport sexuel, avait cherché à m'expliquer l'importance fondamentale attribuée à la virginité de sa future femme. Donc c'est Jalal qui parle. Elle doit être vierge, sûrement. C'est ça qui fait la femme, il me dit. Si elle n'est pas vierge, c'est un vrai problème, parce que si tu t'es marié avec elle, elle n'est pas vierge, et après quelqu'un vient se moquer de toi en disant « c'est moi qui l'a dépucelé, c'est moi », c'est la honte. C'est comme si c'est lui l'homme. C'est comme si t'es quelqu'un parmi d'autres, t'es un fil, et ça me gêne. Donc comme on le voit, la logique de la réputation est liée surtout au regard des autres sur la sexualité de sa partenaire, et non pas vraiment liée à la conduite de sa partenaire en tant que telle. Ainsi, Jalal réaffirme l'importance de jouer les rôles de l'initiateur sexuel, qui semble lui permettre d'éviter la confrontation avec tout un ensemble de masculinités concurrentes. Donc, je reprends encore les récits de Jalal, qui me dit « Si tu es en couple avec une Italienne, il faut que personne ne la connaisse. Parce que normalement, les filles italiennes ne sont plus vierges à l'âge de 15 ans. Et si une fille n'est plus vierge, tout le monde le sait ici. » Il parle de son village. « Ici, c'est petit, tout le monde se connaît. Moi, j'ai essayé d'avoir une relation avec une Marocaine. Mais quand c'est trop petit comme ici, on ne peut pas sortir ensemble. Les gens parlent. Son père vient te chercher et c'est ça le problème. Ou si elle a des frères, des cousins, ils vont dire à ses parents que leur fille a un copain. Donc les conduites masculines et féminines, en perspective intra- et interculturelle, semblent faire l'objet d'un contrôle permanent. Mais si avec les Italiennes, c'est surtout le passé sexuel de la fille qui est pris en compte, lorsque Jalal se réfère à des potentielles copines marocaines, c'est les regards des autres Marocains et des familles marocaines qui semble devenir l'objet de son attention. Ce sera Jalal lui-même, quelques jours après notre entretien, qui confirmera la force et l'impact de ces réseaux de contrôle. Nous étions avec ses amis sur la place centrale de ces villages de la banlieue de Florence, quand l'arrivée d'un groupe d'adolescentes qui passait justement devant nous appela Jalal à mettre en scène cette masculinité protectrice de ces femmes, car parmi ces filles, il y avait la cousine de Jalal. Ce jeune homme s'adressa à elle en lui faisant signe de ne pas rester au centre de la place et de sortir du champ de son regard et de celui de ses amis, car Jalal, comme il put me l'expliquer ensuite, ne voulait pas entendre leurs appréciations sur sa cousine et sa conduite. Donc l'exemple de la conduite de Jalal constitue un cas assez fréquent sur les terrains toscans de ma recherche. Il s'agit d'un jeune homme issu du milieu populaire, son père ouvrier, sa mère femme au foyer. Il est installé dans un petit village où sont présentes de nombreuses familles immigrées ayant les mêmes origines sociales et ayant des liens de parenté entre elles et provenant en plus de la même ville d'origine au Maroc, dans un Maroc rural. Il s'agit donc d'un aspect qui contribue à accentuer les dynamiques de contrôle intraculturel entre jeunes hommes faisant partie de la même communauté d'origine, observé dans mon étude, surtout à l'échelle des petits villages de la Toscane, et que l'on peut retrouver en France, surtout à l'échelle des cités. Je ne vais pas revenir sur cette question, car il s'agit d'un thème que nombre d'études sur la jeunesse des quartiers ont mis en évidence, en discutant notamment les cas des jeunes descendants d'immigrés. Je pense aux travaux de Christelle Hamel, d'Emmanuel Santelli. Je voudrais plutôt me concentrer sur un autre aspect, car il me semble que cette question de la sexualité féminine en tant que dépositaire, en quelque sorte, de la réputation de l'homme, peut être lu aussi selon une autre perspective, c'est-à-dire en considérant la réputation de la femme comme un enjeu de la construction masculine. En analysant les cas de Jalal, nous rencontrons en fait l'une des figures mythiques de la jeunesse des milieux populaires, et notamment des cités, analysée par la sociologie française, celle du grand frère protecteur. Et comme l'explique justement Isabelle Claire, il s'agit d'une figure qui, dans les sens communs, est interprétée en tant que véritable agent de la domination masculine, je la cite directement, bras droit naturel du père, dépositaire tribal de l'honneur familial, gardien ancestral de la virginité des filles de sa famille. Donc en analysant un autre cas d'étude, cette fois-ci tiré du terrain de recherche en Alsace, je vais maintenant chercher à montrer que les formes d'expression de ces profils masculins en lien avec la mise en scène de la réputation demeurent très complexes et que, comme Isabelle aussi le souligne, ne peuvent pas être réduites de manière essentialiste à la représentation mythique d'un seul profil de jeune homme de banlieue, issu d'un milieu populaire, souvent, j'ajoute, un descendant d'immigrés. Avant, je me permets d'ouvrir une dernière petite parenthèse. En France, après les durcissements des conditions permettant les regroupements familiaux des enfants d'immigrés, et donc notamment depuis 2005, ce n'est pas si évident de rencontrer des jeunes ayant entre 20 et 30 ans, immigrés du Maroc et arrivés en France entre l'âge des 13 et 20 ans, comme c'était l'objectif de mon étude. En Alsace, donc, ce sont surtout les étudiants universitaires arrivés entre l'âge de 17, 18, 19 ans et davantage issus donc, des milieux plus aisés qui ont composé ma population d'études. Je ferme la parenthèse car, en effet, Amir, le deuxième jeune homme dont je vais vous parler, avant 6 ans, il habite à Strasbourg depuis 7 ans et il est étudiant universitaire en économie. Il est originaire d'une petite ville non loin d'Agadir, est issu d'une famille aisée. Son père et sa mère sont tous deux enseignants de lycée. Et en plus, en Alsace, résidait aussi, au moment de son entretien, sa sœur et sa tante. Et Amir habitait tout seul dans un grand appartement dont la famille d'Amir était la propriétaire. Amir m'avait parlé d'une jeune femme marocaine qui avait quitté sa ville d'origine, où tous deux avaient grandi, pour partir étudier en Russie. 26 ans, elle aussi issue d'une famille aisée, pendant un séjour au Maroc lors des vacances d'été 2013, Amir avait pu la revoir de manière assez régulière, car aussi les parents de la jeune femme et d'Amir se connaissaient entre eux. Pendant l'été, Amir s'était beaucoup rapproché de cette jeune femme, avec qui, en plus, il avait déjà eu une relation avant de partir en Europe, sans pour autant consommer avec elle aucun rapport sexuel, d'après ce qui m'a raconté. Elle lui avait parlé de son projet de s'installer au Maroc, mais Amir n'était pas convaincu de ses intentions. Il croyait en fait qu'elle avait juste envie de trouver un homme, n'importe lequel, se marier et pouvoir se libérer de ses parents. Toutefois, au-delà de ses soucis, un aspect semblait troubler Amir hein, plus que d'autres. Il était persuadé par le fait qu'elle n'était plus vierge. Il me disait « Je pense qu'elle est vierge devant, mais j'ai peur qu'elle n'est pas vierge derrière », disait-il. Ainsi, en me racontant qu'elle lui avait parlé d'un copain arabe, libanais, avec qui elle avait travaillé en Russie, Amir se lança dans la description d'une situation intime particulière vécue avec elle. Un jour, pendant qu'il était en train de l'embrasser et de la déshabiller, Amir lui avait posé une question. « Ce n'est pas la première fois pour toi, n'est-ce pas ?» Face à cette demande, elle aurait rougi, gênée, sans donner de réponse. Même si Amir m'avait rappelé plusieurs fois qu'il croyait n'avoir pas le droit de demander une jeune femme vierge en mariage, vu que lui non plus n'était pas vierge, lorsqu'il racontait l'histoire vécue avec cette fille, il semblait avoir changé l'idée sur la question. Il m'expliquait en fait que les copines, je les cite, avant de se marier, c'est une chose, mais la femme de ta vie et la mère de tes enfants, c'est autre chose. De plus, la référence à une distinction entre les femmes de la population majoritaire et les femmes marocaines participaient à soutenir son récit. Au Maroc, les filles, il me raconte, au Maroc, les filles ne se donnent pas tout de suite comme elles. Il se réfère à la jeune femme marocaine. Elle est comme une fille française. C'est quoi la différence? Quand je rentre au Maroc, les filles ne m'intéressent même pas parce que je suis gavé, je suis dégoûté par l'excès français. Donc, lorsque la conduite sexuelle de la femme, de sa femme marocaine, ne respecte pas les conditions devant caractériser la femme idéale, elle est définie comme une fille française. Ainsi, Amir continue. Elle a fait quelque chose avec les Libanais, j'en suis sûr. Les Russes, c'est comme nous, en entendant les Arabes. Avec les Français, ils ne se posent pas la question, mais les Libanais, je sais très bien comment ça marche avec les Arabes à l'étranger. Parce que moi aussi, je suis un Arabe. Les mecs libanais ne voulaient pas lui gâcher sa virginité, parce qu'ils ne voulaient pas faire ça à une fille arabe. C'est sûr qu'elle a fait ça par derrière. Mais tu te rends compte, la mère de mes enfants qui fait ça, laisse tomber. Donc les récits d'Amir semblent révéler un conflit entre deux facettes d'un même modèle hégémonique de la masculinité patriarcale qui produisent la dialectique de la réputation chez ces jeunes hommes. La masculinité prédatrice d'une part et la masculinité protectrice de la sexualité de sa femme de l'autre. Donc d'un côté, Amir se rapproche d'une arabité partagée avec les supposés copains libanais de la jeune femme, qui, en tant qu'arabe, comme le souligne Amir, aurait voulu préserver l'hymen de la fille marocaine, qui est considérée une fille arabe à l'étranger. Mais de l'autre côté, il se rapproche également du comportement diamétralement opposé d'un imaginaire homme russe qui incorporerait au contraire une masculinité plus proche de celle d'Amir lorsque ce dernier et face à des partenaires sexuels en Europe, donc et notamment des Françaises. Et donc, lorsque sa réputation, c'est ça qui est intéressant, ne dépend pas de l'honorabilité de la femme, mais plutôt de la mise en scène d'une masculinité virile et prédatrice. Ainsi, Amir réaffirme les besoins de préserver sa réputation dans le cadre de son futur mariage, ainsi que les prolongements de sa lignée. La jeune femme marocaine n'est pas simplement envisagée comme possible épouse, mais elle est aussi en tant que mère de ses futurs enfants, dont l'honorabilité dépendra du passé sexuel de la femme qui leur a donné naissance. Et ces derniers aspects semblent d'autant plus importants que dans les récits d'Amir, la jeune femme en question est originaire de sa ville au Maroc, issue de son même milieu. Et donc, et surtout connue aussi par son entourage d'amis marocains, aussi bien en France qu'au Maroc, et par la famille d'Amir même. Donc la réputation de ce jeune homme et son image aux yeux des autres se confirme un objet des relations sociales qui, comme on le voit, s'exprime à différentes échelles et dans différents espaces d'interaction, du quartier au village d'immigration, comme on l'avait vu en Italie, jusqu'au village d'origine au Maroc, comme on le voit dans les cas d'Amir. Donc pour terminer, comme on peut le voir à travers ces exemples, la mise en scène de l'honneur n'est pas la reproduction d'un vieux fond de la culture maghrébine, mais elle est réinvestie des nouvelles significations qui permettent l'agencement d'un rôle masculin de contrôle qui se met en scène selon différentes stratégies et qui n'est pas exclusive des jeunes issus des milieux populaires ou des jeunes des cités. Au contraire, la réputation masculine est renégociée dans un ensemble complexe des relations homosociales, des genres, des classes, entre populations majoritaires et minoritaires. La figure de la femme garde son rôle de dépositaire de la réputation sociale du sujet masculin, mais les pouvoirs normatifs de cette représentation de la partenaire et surtout de sa sexualité semblent se révéler non pas tant un moyen pour la mise en pratique effective d'un contrôle sur les conduites des femmes qu'un outil de la construction des masculinités, pour la réaffirmation d'un modèle hégémonique de la masculinité patriarcale dont l'hétéronormativité n'est jamais mise en discussion, tout comme la symétrie des rapports des sexes, entre les sexes, que ce même modèle soutient et confirme. Donc l'honneur cesse ainsi d'être une représentation essentialisée d'un trait culturel masculin et appréhender en tant que réputation se révèle plutôt un enjeu changeant des constructions masculines. Et pour les sociologues, un opérateur analytique capable d'interpréter les vécus de ces jeunes hommes marocains ainsi que leur place au sein des relations intra- et interculturelles dans différents milieux sociaux. Je vous remercie beaucoup de votre attention.